y a des statistiques qui, à elles seules, racontent vraiment le basculement d'un monde tout entier.
Ah oui, des chiffres qui donnent carrément le vertige parfois.
Exactement. Prenons le département de l'Aveyron, au tout début du XXe siècle, donc en 1901. À cette époque, on estime que 76,1% de la population vit directement de l'agriculture.
C'est énorme.
Bah oui, on parle de près de 291 000 personnes dont le quotidien, la survie même, est totalement rythmé par le travail de la terre. Et là, faisons un saut d'à peine un siècle, en 1993.
Et le contraste est brutal.
Complètement brutal. Cette même population agricole s'est effondrée pour ne représenter plus que 17%, soit à peine plus de 46 000 personnes. C'est l'effacement presque total d'une civilisation rurale. Une mutation sociologique fulgurante qui a bouleversé tous les repères d'une région en l'espace de quelques décennies à peine.
Tout à fait. Et pour comprendre un peu la chair et le sang de cette statistique, pour voir concrètement comment ce monde paysan a vécu cette révolution de l'intérieur, notre exploration documentaire d'aujourd'hui va se concentrer sur une archive visuelle et historique vraiment exceptionnelle.
Ouais, une source fascinante.
Absolument. Il s'agit d'un grand format qui s'intitule « Travaux des champs » et qui a été publié dans le bulletin numéro 20 du Cartoclub Aveyronnais. C'est paru en janvier 2004.
Et l'angle de cette analyse est vraiment remarquable, parce qu'il s'agit de décrypter cette grande bascule rurale uniquement à travers le prisme de la carte postale, qu'elle soit ancienne ou moderne.
Voilà, c'est ça qui est original. Et d'ailleurs, il faut tout de suite rendre à César ce qui lui appartient en créditant l'auteur de ce texte, Géraud Gourde. Il accomplit un travail de synthèse remarquable en s'appuyant très intimement sur les recherches de l'incontournable Roger Béteille.
L'auteur de Les semeurs d'avenir et L'orange aux girofles, c'est bien ça?
Exactement. Ces livres sont essentiels pour comprendre la région. Et il est tout aussi indispensable de souligner ici le travail de Guy Mazard.
Ah oui, Guy Mazard, qui est cité comme rédacteur en chef et concepteur de la mise en page de ce bulletin. C'est important de le mentionner parce que c'est précisément cette mise en scène visuelle, le dialogue constant entre le texte et ces petits morceaux de carton imprimés, qui donne toute sa force au propos.
C'est un vrai travail d'orfèvre.
Clairement. Donc, pour notre audience, la mission de notre plongée d'aujourd'hui n'est pas de dresser un simple catalogue d'antiquités agricoles. On est bien d'accord. Il s'agit de comprendre comment la perte des rites immémoriaux et l'adaptation souvent très douloureuse d'ailleurs à la modernité technique ont été figées par l'objectif des photographes de l'époque.
Et le point de départ idéal pour illustrer cette tension, cette douleur parfois, c'est le travail de la terre lui-même, le labourage.
Le commencement de tout en fait.
C'est ça. La révolution agricole ne commence pas seulement avec l'arrivée des moteurs. Elle commence d'abord par un changement radical d'état d'esprit. On passe soudainement d'une agriculture de pure subsistance, où l'on produit littéralement pour ne pas mourir de faim, à une agriculture qui intègre la notion de performance, de rendement, de compétition.
Et cette notion de compétition, elle crève les yeux quand on observe l'une des images de la source. La carte postale ancienne numéro 2, la fameuse CPA2 comme c'est indiqué dans le bulletin. La scène se déroule à Toulonjac, près de Villefranche de Rouergue, en 1912.
Et visuellement, c'est très impressionnant.
C'est le mot. C'est un spectaculaire concours de labourage. On y voit une quinzaine d'attelages de bœufs alignés, en plein effort. Et le détail le plus curieux, que l'article souligne d'ailleurs, c'est que ces bêtes massives sont recouvertes de sortes de grandes couvertures sur le dos.
Ce qui pose question.
Ouais, l'auteur s'interroge. Est-ce que c'était une protection contre les intempéries pour ces animaux très précieux? Ou bien un moyen d'afficher de grands numéros pour identifier les concurrents du concours? Quoi qu'il en soit, la tension physique sur l'image est palpable. On devine le poids des hommes pesant de toute leur force sur les mancherons de la charrue pour creuser le sillon le plus droit possible.
Cette image de Toulonjac, elle symbolise vraiment cette course naissante à l'efficacité. On veut aller plus vite et surtout on veut aller plus profond dans la terre.
Mais c'est justement cette quête de profondeur qui va créer des étincelles, non?
Au début de la guerre de 14-18, dans la région du Ségala, un véritable conflit de générations éclate. Et tout ça autour d'un objet en fer.
C'est fou de s'imaginer ça aujourd'hui.
Et pourtant, les anciens ne jurent que par l'arère. C'est cet outil millénaire, souvent en bois, qui se contente d'égratigner la surface du sol. Pour eux, c'est une façon de respecter une terre qu'ils considèrent presque comme sacrée.
Et face à cet arrêt, on a la jeune génération qui déboule et qui exige l'adoption du Brabant. C'est d'ailleurs ce qu'on voit très bien sur la CPA numéro 3 qui a été photographiée à la Capelle Blaise. Mais concrètement, pourquoi cet outil, le Brabant, crée-t-il une telle discorde dans les fermes ?
Parce que c'est une vraie mute-cure technologique. Le Brabant est une charrue lourde, entièrement métallique, équipée de socs réversibles. Contrairement à l'arrière qui gratte gentiment, le Brabant tranche la terre en profondeur et la retourne complètement.
Ah oui, c'est beaucoup plus agressif pour le sol.
Voilà. Pour un jeune agriculteur, c'est la promesse d'un champ mieux aéré, d'un sillon rectiligne et d'un rendement décuplé. Mais pour un paysan âgé, c'est perçu comme une violence faite à la nature. Cette obstination est magnifiquement capturée dans un extrait du roman « L'orange aux girofles » de Béteil, qui est cité dans le bulletin. On y assiste à une dispute féroce entre le père, Paul, et sa fille, Poquette.
Ouais. Un dialogue d'une intensité folle pour une simple question d'outillage agricole quand on y pense. Poquette est serrée parce que son père veut ressortir le vieil arrière du hangar pour faire les labours. Elle raconte même avoir crié une bonne partie de la nuit parce qu'il refuse catégoriquement de conduire le fameux bralant. Mais l'argument du père est saisissant, hein ?
Totalement. Il accuse cette nouvelle machine de, je cite, « remonter des tas de cailloux blancs en labourant trop profond ». En fait, il a une peur panique de ruiner son propre champ de ses mains. Et la fille, face à ça, conclut la dispute avec une détermination farouche en lui lançant « Je tiendrai le Brabant ».
À travers ce dialogue, on ressent vraiment toute la déchirure d'un monde ancien qui refuse de céder la place à la nouveauté. Et le pire, c'est que cette déchirure simplifie encore lorsqu'on passe de l'étape du labourage à celle de la récolte. Si le Brabant a divisé les familles autour de la table le soir, l'arrivée des machines de moisson, elle, va carrément déclencher des émeutes.
Ah, la transition technologique illustrée dans ces documents est d'une brutalité inouïe. D'un côté, on a l'image d'une récolte manuelle, très archaïque.
C'est ce que montre la CPA numéro 4. Elle illustre parfaitement cette rudesse. On y voit des moissonneurs travailler à la faucille. Mais c'est le détail technique apporté par le texte de l'article qui donne vraiment la mesure de la pénibilité de cette tâche. On y décrit l'usage du liadou.
Le liagou, oui, c'est terrible.
C'était une petite cheville en bois très dur qu'une femme utilisait spécifiquement pour faire un nœud dans les brins de paille, dans le seul but de lier les gerbes de blé à la main. Il faut inviter notre audience à se représenter la scène un instant. Ce sont des journées entières, courbées sous le soleil de plomb de l'été, à lier manuellement des milliers de gerbes avec un simple petit bout de bois.
C'est un travail éreintant, c'est lent, ça brise le dos et ça nécessite une main-d'œuvre particulièrement abondante. Et soudain, le bond technologique survient. C'est la carte postale numéro 5 qui introduit la révolution étale, la moissonneuse-lieuse.
Fini, le liadou.
Les armées de journaliers dans les champs, la légende de cette image précise que l'engin, qui est tiré par des chevaux ou des bœufs, est capable de couper et de lier automatiquement 3 hectares de céréales par jour. Le calcul économique est juste implacable. Une seule machine abat le travail d'une douzaine de travailleurs agricoles.
Une douzaine ? C'est colossal. D'ailleurs, la commercialisation de ces engins avait commencé bien plus tôt qu'on ne l'imagine. Les sources de l'article exhument une réclame de 1880 pour la maison Veuve Recoule Dubreuil, installée à Rodez.
Tout à fait.
Cette entreprise proposait déjà tout un arsenal de faucheuses et de râteaux mécaniques. Et c'était destiné aux gros propriétaires qui cherchaient évidemment à réduire leurs frais de personnel. Mais remplacer 12 personnes d'un coup par un assemblage de ferrailles, ça ne passe pas inaperçu dans un petit village du début du XXe siècle.
La tension sociale devait être maximale, surtout pour ceux dont les bras étaient le seul capital. C'était perçu non pas comme un progrès, mais comme une condamnation à la misère absolue. La productivité avait un coût humain terrifiant. Et cela a logiquement mené à de véritables rébellions contre l'innovation.
L'article mentionne un événement spécifique par rapport à ça, non ?
Oui, un événement très marquant survenu en 1903, au domaine de la Vallière, sur la commune de Voire. De riches propriétaires font l'acquisition d'une de ces fameuses moissonneuses. Et la nuit même de son arrivée au domaine, les ouvriers agricoles se soulèvent et la détruisent purement et simplement.
Ils l'ont cassée en pleine nuit ?
Exactement. C'est du brain machine classique, un acte de désespoir absolu contre un outil qui vient concrètement leur arracher le pain de la bouche.
L'article fait d'ailleurs un parallèle littéraire avec le roman « La Terre » d'Émile Zola, paru quelques années plus tôt, en 1887. Et ça donne vraiment des frissons. Zola y décrit la réaction viscérale, presque animale, des paysans qui observent le fonctionnement d'une faneuse mécanique.
Ils en ont peur.
Ils sont terrorisés. Ils ne voient pas un outil de progrès qui va les soulager. Ils voient, je cite les termes exacts du texte, « une bête féroce et méchante ». C'est l'invention du diable, conçue spécifiquement pour affamer le pauvre monde. La question de la survie des femmes, qui sont les premières remplacées dans leur tâche de liage, y est centrale. La machine est littéralement diabolisée.
Et pourtant, il est fascinant de noter que cette modernisation ne s'est pas faite qu'au travers des conflits, de la destruction et de l'angoisse. Elle a aussi été le moteur d'un immense orgueil dans la région. Particulièrement lorsqu'on observe l'évolution de l'élevage sur ces fameuses cartes postales.
Un orgueil régional, oui.
Voilà. Alors que les terres du Ségala voient péricliter l'élevage traditionnel des moutons, une réorientation stratégique majeure s'opère vers l'élevage bovin et porcin. Et c'est là que la carte postale prend un tout autre rôle. Elle n'est plus seulement illustrative, elle devient un véritable instrument de propagande et de fierté régionale.
C'est indéniable quand on regarde les clichés mettant en scène les animaux. Particulièrement les vaches de race Aubrac ou Brune des Alpes. Il s'en dégage une prestance presque royale. L'exemple le plus éclatant de cette source, c'est sans conteste la CPA numéro 14.
Ah, la place du palais de justice ?
C'est ça. Elle immortalise la tradition des bœufs gras à l'occasion des fêtes de Pâques. Le décor lui-même raconte toute une histoire. On est en plein cœur de Rodez, sur cette fameuse place du palais de justice, et c'est posé juste devant la devanture du bien nommé Café de l'agriculture. On y exhibe des bovins d'une taille monumentale, ils sont parés de bandelettes tricolores et ils sont entourés d'hommes fiers posant en costume du dimanche. Ce n'est plus du tout de la simple production de viande pour se nourrir, c'est l'exhibition publique d'un triomphe génétique.
Parce que l'élevage est devenu la nouvelle vitrine technologique de l'Aveyron. Obtenir une bête aux mensurations parfaites, ça relevait d'un savoir-faire extrêmement complexe qui forçait l'admiration de tous. Et cette excellence rayonnait bien au-delà des limites du département. Elle s'exportait jusqu'au prestigieux concours agricole de la capitale.
Le bulletin souligne, par exemple, la victoire d'un éleveur local, un certain Monsieur Cabrelier.
Oui, Monsieur Cabrelier de Bélair, qui a décroché un premier prix à Paris grâce à un spécimen tout à fait exceptionnel de la race Aubrac. Immortaliser ces bêtes de concours sur des cartes postales qu'on envoyait partout, c'était prouver au reste du pays entier que la paysannerie locale n'était pas arriérée, qu'elle maîtrisait parfaitement la modernité.
Et justement, cette marche forcée vers la modernité, elle nous amène progressivement à un basculement vraiment fascinant dans l'iconographie lorsqu'on avance un peu dans le temps au fil de la lecture de ce grand format. On quitte les cartes postales anciennes pour entrer dans l'ère des CPM, les cartes postales modernes avec leurs couleurs vives. Et là, le texte de Gérogour met en lumière un paradoxe esthétique et sociologique complètement inattendu.
C'est la tension permanente entre l'hyper-technologie d'un côté et la nostalgie idéalisée de l'autre. L'article décortique ça avec une très grande acuité. D'un côté, la photographie moderne documente froidement l'aboutissement de l'industrialisation agricole.
La CPM numéro 18 en est l'incarnation parfaite. On y découvre une installation digne d'un laboratoire industriel moderne. C'est une immense machine rotative rutilante qui est conçue pour la traite simultanée de 20 brebis. C'est un rouage essentiel, purement mécanique, pour alimenter la colossale production de lait destinée à l'affinage du Roquefort.
L'efficacité y est maximale, mais le contact humain avec l'animal, lui, est réduit à la stricte gestion d'une mécanique complexe.
C'est froid. Mais le plus fou, c'est qu'en parallèle, dans les années 90, les photographes éditent des cartes comme la CPM numéro 20. La scène se passe à Tournemire, lors d'une fête estivale de la moisson. Et que voit-on sur cette carte moderne en couleur ? Des bénévoles en costume traditionnel qui miment avec le sourire les gestes de leurs arrière-grands-parents. Ils sont en pleine reconstitution d'un dépiquage au rouleau de granit tiré par de placides bœufs. C'est le grand écart absolu avec la trayeuse rotative.
Mais ce paradoxe s'explique par la nature même du progrès. C'est ce que montre l'analyse. L'agriculture contemporaine a sauvé les corps de l'épuisement total. C'est vrai, elle a garanti la sécurité alimentaire pour tous. Mais elle est devenue abstraite. Elle est gérée par des ordinateurs et des machines froides.
Elle a perdu son âme, en quelque sorte.
Pour beaucoup, oui. Ce monde hyper technique suscite inévitablement un sentiment de perte, une coupure avec les racines charnelles, terre à terre, du métier de paysan. L'engouement incroyable pour ces fêtes de reconstitution qu'on retrouve à Tournemire ou à la Salvetta Perales, comme mentionné dans l'article, ça dépasse très largement le simple folklore pour divertir les estivants.
J'ai, Regourde analyse d'ailleurs cela comme un besoin profond et sincère de la part des locaux de retrouver une convivialité perdue, de rendre un hommage vibrant à ces, je cite, « gestes simples dont dépendait la vie ».
Bien entendu, il faut garder à l'esprit que cette reconstitution occulte totalement la misère. Elle efface la douleur, les journées à se briser le dos avec un lit à doux, pour n'en conserver que le romantisme et l'esprit de communauté. C'est une vision idéalisée du passé.
Et d'ailleurs, tout naturel, en refermant cette analyse, de se demander quelle résonance cette vieille querelle entre l'arrière en bois et le lourd brabant métallique peut bien avoir pour nous aujourd'hui. Quand on y pense, l'exploration de ces cartes postales démontre que la dynamique du changement technologique est totalement immuable.
C'est un cycle éternel.
Exactement. La terreur qui a été ressentie par cet ouvrier agricole de Voirs en 1903, voyant débarquer de nuit une moissonneuse mécanique capable de le remplacer le lendemain matin, c'est exactement la même angoisse que celle qui est générée aujourd'hui par l'intelligence artificielle ou la robotisation massive dans le monde du travail.
C'est vrai, les parallèles sont saisissants.
Le support change, l'outil évolue, mais le défi vertigineux de l'adaptation humaine, la peur viscérale de l'obsolescence face à la machine et le deuil douloureux des savoir-faire d'antan, tout cela reste des constantes universelles de notre société.
C'est une observation fondamentale. Et si l'on pousse cette logique un peu plus loin, en se basant sur le besoin de nostalgie évoqué dans nos sources, on aboutit à une perspective assez vertigineuse sur notre propre rapport au temps et au progrès.
Comment ça ?
Eh bien, réfléchissons-y. Les paysans du début du XXe siècle voyaient la machine à vapeur ou le grand Brabant en fer comme des menaces brutales, des choses dépourvues de toute âme. Pourtant, ces mêmes objets techniques sont aujourd'hui amoureusement restaurés, briqués et célébrés lors de fêtes de villages fleuris. Il y a donc fort à parier sur ce que l'avenir nous réserve.
Tu veux dire qu'on fera pareil avec nos outils modernes ?
Exactement. Dans un siècle, il n'est pas du tout impossible que des passionnés d'histoire organisent de grandes reconstitutions estivales pour célébrer, avec une pointe d'émotion, la noblesse des tout premiers opérateurs de trieuses rotatives des années 90. Ou qu'ils miment avec nostalgie le démarrage fastidieux d'un vieux tracteur Renault des années 70, en considérant cette mécanique fumante comme l'ultime symbole d'une époque authentique. Tout ça face à un monde où l'agriculture sera peut-être devenue entièrement autonome, silencieuse et invisible.
Le progrès d'aujourd'hui est invariablement programmé pour devenir la douce nostalgie de demain.
C'est joliment dit.
C'est inévitable. Eh bien, c'est une excellente piste de réflexion pour clôturer cette plongée passionnante dans les mutations du monde paysan à Véronnais. Derrière de simples clichés de concours bovins ou de charrues se cache toujours l'histoire universelle de notre propre capacité d'adaptation. Il est toujours fascinant d'observer les transformations silencieuses qui modèlent notre époque à la lumière de celle du passé. À très vite pour une nouvelle exploration captivante de nos archives.
À bientôt et gardons toujours un œil critique sur les images qui racontent l'évolution de nos sociétés.